en lecture. Bouillon de lecture, une émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous, par la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour. Tu nous as réveillés.
Oui. Et moi j'attendais Catherine. Aujourd'hui c'est Hervé qui a choisi le livre. Alors Hervé, ce choix.
Eh bien, j'ai choisi de lire des extraits d'un auteur qui a été moult fois récompensé, mais qui n'est pas, je le reconnais, tout à fait moderne, hein, vraiment. C'est Robert Merle, et son roman s'appelle Malville.
Ah oui, un vieux souvenir, Malville, j'ai lu ça il y a bien longtemps.
Pas tout à fait moderne. Tu vas dire ça de Molière, de je ne sais pas quoi.
Et donc Robert Merle a disparu dans les années 2000, n'est-ce pas ?
Oui, en 2004 pour être exact. Oui.
Et donc pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est un rapport avec Fortune de France qui passe en ce moment sur, à la télé ?
Eh bien exactement, oui, c'est vrai que ça a passé à la télévision au mois de septembre. Et du coup, ça m'a donné l'idée. J'ai repensé à Robert Merle et puis ben voilà, j'ai repensé à Malville, tout simplement.
Et tu as dit qu'il avait été plusieurs fois primé.
Oui, exactement. Par exemple, d'abord pour Weekend à Zuidcock.
Alors... Weekend à Zuidcock, ce qui est intéressant et ça peut interpeller les Blaisois, c'était un premier roman. Donc, pour un premier roman, belle réussite.
Hein. Ah oui,
tout à fait. Oui, avec, il a eu le Goncourt en 49 avec ce roman. Et puis après, il a eu le Renaudot pour Le Jeu de Patience. Mais honnêtement, je viens de le lire sur Internet parce que moi, j'avais oublié ce bouquin. Catherine ?
Je ne peux pas te dire, je ne l'ai pas
lu. Moi, je ne l'ai jamais lu.
Alors, par contre, La mort et mon métier est resté beaucoup plus connu parce que, sûrement, il a été adapté au cinéma.
C'est toujours ça réducteur pour l'auteur, quand même. Parce que je connais des gens qui lisent toujours Robert Merle, quand même. Je veux dire, c'est une belle écriture, on est d'accord.
Ah oui, voilà. C'est extrêmement
donc
bien écrit.
Donc, on a le droit de l'aimer, même s'il n'est pas adapté au cinéma, quoi.
Ah mais bien sûr, au contraire, si j'ai choisi Malville, ouais. Robert Merle...
Je sais, tu nous en avais parlé, tu l'avais vraiment aimé. Hein.
Oui, vraiment.
Voilà. Vraiment.
Mais faut, je le reconnais, hein, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Robert Merle.
Voilà. Et Hervé dit pas tout, parce qu'il y a un autre roman de Merle qui vaut la peine d'être lu, c'est Les Hommes protégés,
ah oui,
qui raconte la vie de quelques scientifiques américains isolés du fait d'une forte épidémie décimant le monde entier. Et bon, Robert Merle abordait vraiment de nombreux thèmes, hein, dans ses romans. Là, il aborde le thème des dictatures, qui ne manquait pas d'arriver au prétexte que les sociétés étaient en danger, et un thème qui a un lien avec le livre qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est le thème de la monogamie, mais inversé, puisque la fameuse maladie dans Les Hommes protégés, ça tue les hommes. Donc, il y a trop de femmes.
Tout à fait.
Et dans notre histoire, il n'y a pas assez de femmes et il y a un peu trop d'hommes.
Je crois aussi que, et là je m'adresse à Catherine parce que il aime bien les romans, les situations en huis clos.
Alors il y en a plusieurs là,
tu vois.
Oui, il en a plusieurs. Alors c'est vrai qu'à contrario, quand on voit Fortune de France...
Après, est-ce que Malville est vraiment un huis clos ?
Alors c'est un huis clos presque à l'extérieur aussi.
Oui.
C'est-à-dire que... Non, c'est le fait de savoir comment quelques hommes ensemble arrivent à
reconstruire.
Enfin, c'est le regroupement de quelques hommes qui fait qu'ils vont pouvoir tenir le coup.
Exactement. Ben, merci Catherine pour avoir amené la première lecture.
T'as vu ça un peu ?
Ah oui, c'est fort. On retrouve donc quelques hommes, femmes également, oui, quelques compagnons qui sont dans une cave au mur très épais.
Une vieille bâtisse.
Oui. Une vieille bâtisse et ils sont en train de mettre du vin en bouteille.
C'est d'une banalité sympathique.
Exactement.
Dans mon souvenir, tout s'est immobilisé à cette seconde même. Comme dans une scène au musée Grévin où les personnages historiques sont à jamais figés dans des attitudes familières. Au centre, le groupe formé par Messonnier, Colin, le grand Pissou et moi, le verre à la main, le visage animé, tous les quatre très occupés par l'avenir d'un village de 412 habitants sur une planète qui comptait 4 milliards d'êtres humains. S'éloignant du groupe à grandes enjambées et lui tournant le dos, Thomas, entre Thomas et nous, Momo. Me regardant encore avec défi, tenant dans une main son verre déjà plus qu'à moitié lampé et de l'autre son transistor, d'où continuait à couler à haut régime une chanson idiote d'idole. À côté de lui, comme pour le protéger et tellement plus petite, la menou, ridée comme une petite pomme frélétrie, mais les yeux encore tout brillants de sa victoire sur moi. Et enfin, autour et au-dessus de nous, cette cave immense et ses grandes voûtes à nervures éclairées par en dessous, réfléchissant sur nos têtes la lumière en l'atténuant. La fin du monde, ou plutôt la fin du monde dans lequel nous avions jusque-là vécu, commença de la façon la plus simple et la moins dramatique. L'électricité s'éteignit. Quand la nuit se fit, il y eut des rires, quelqu'un dit « c'est une panne ». Un briquet craqua deux fois et s'alluma, éclairant le visage de Thomas. « Veux-tu allumer les bougies ?» dis-je en m'avançant vers lui. « Ou plutôt, tiens, passe-moi ton briquet, je vais le faire. Je sais où sont les appliques. »« J'aurais bien trouvé ma bouche quand même, » dit la voix de Pessou. Et quelqu'un, peut-être Colin, dit à mi-voix avec un petit rire « elle est assez grande pour ça ». La flamme du briquet vacillant devant moi, je passai devant Momo et je remarquai que son transistor ne beuglait plus, mais que le cadran en était toujours éclairé. J'allumai les deux appliques les plus proches, quatre bougies en tout, et la lumière après la nuit nous parut presque intense, bien qu'elle laissât dans l'obscurité la majeure partie de la cave. Les appliques avaient été fixées assez bas dans les murs pour respecter le dessin des voûtes, et nos ombres sur celles-ci paraissaient gigantesques et brisées. Je rendis son briquet à Thomas, qui le remit dans la poche de son imperméable et se dirigea vers la porte. « Ah, tu as enfin arrêté ton truc, » dis-je à Momo. « Aïen a été, » dit Momo en me regardant d'un air de reproche comme si j'avais jeté un sort à son appareil. « Amache bleu !»« Il marche plus ?» cria la menou avec indignation. « Un transistor tout neuf, même que j'ai fait remettre des piles hier à la roque. » Bah, « ce serait vraiment étonnant, » dit Thomas en revenant vers nous, son visage surgissant à nouveau dans la lumière. « Mais il marchait à l'instant, voyons. » Il reprit, « tu n'aurais pas plutôt tripoté les piles ?»« Non, non, » dit Momo. « Fais-moi voir, » dit-il en posant ses cartes sur un tabouret. Je m'attendais à voir Momo se cramponner à son transistor, mais il le donna aussitôt à Thomas avec l'air d'une mère inquiète qui confie à un médecin son bébé malade. Thomas éteignit le cadran, puis le ralluma, donna le maximum de puissance et promena lentement l'aiguille le long des stations. Il y eut de violents crépitements, mais aucun son ne sortit. « Mais quand l'électricité s'est éteinte, tu l'as laissé tomber, tu l'as cogné ?» Momo fit non de la tête. Thomas sortit un couteau rouge de sa poche et avec la lame la plus petite défit les vis du couvercle. Celui-ci enlevé, il approcha le transistor d'une applique et inspecta son contenu. « Je vois rien d'anormal, hein, » dit-il. « Tout me paraît parfaitement en ordre. » Il remit les vis l'une après l'autre et je pensais qu'il allait redonner l'appareil à Momo et s'en aller, mais il ne fit rien de ce genre. Il resta immobile, le visage préoccupé, promenant l'aiguille du transistor le long des stations. Nous étions tous les sept silencieux à écouter, si je puis dire, le silence du transistor. Quand éclata un tapage dont je ne puis donner une idée que par des comparaisons qui toutes me paraissent dérisoires. Roulement de tonnerre, marteau pneumatique, sirène hurleuse, avion perçant le mur du son, locomotive folle, en tout cas quelque chose de claquant, de ferraillant et de strident. Le maximum de l'aigu et le maximum du grave portaient un volume de son qui dépassait la perception. Je ne sais si le bruit, quand il atteint un tel paroxysme, est capable de tuer. Je crois qu'il l'aurait fait s'il l'avait duré. Je plaquai désespérément les mains contre mes oreilles. Je me baissai, je me tassai sur moi-même et je m'aperçus que je tremblais de la tête aux pieds. Ce tremblement convulsif, j'en suis certain, était une réponse purement physiologique à une intensité dont le vacarme que l'organisme pouvait à peine supporter. Car à ce moment-là, je n'avais pas encore commencé à avoir peur. J'étais trop stupide et pantelant pour former une idée. Je ne me disais même pas que ce fracas devait être démesuré pour parvenir jusqu'à moi à travers des murs de 2 mètres d'épaisseur et à un étage sous le sol. J'appuyais les mains sur mes tempes, je tremblais et j'avais l'impression que ma tête allait éclater. En même temps, des idées stupides me traversaient l'esprit. Je me demandais avec indignation qui avait renversé le contenu de mon verre que je voyais couché sur le côté à 2 mètres de moi. Je me demandais aussi pourquoi Momo était étendu à plat ventre sur les dalles, la face contre terre et la nuque recouverte de ses deux mains. Et pourquoi la menue, qui le secouait aux épaules, ouvrait toute grande la bouche sans émettre un seul son. Quand j'ai dit « fracas, vacarme, tonnerre », je n'ai donné aucune idée de l'immensité du bruit. Il cessa au bout d'un temps que je ne puis préciser, quelques secondes, je crois. Je m'en aperçus quand je cessai de trembler et quand Colin, qui pendant tout ce temps était assis par terre à ma droite, me dit à l'oreille quelque chose où je distinguais le mot « barouf ». En même temps, je perçus une suite de petits jappements plaintifs. C'était Momo. Je décollai avec précaution mes mains de mes oreilles, torturai, et les jappements devinrent plus aigus, mêlés aux objurgations en patois de la menue. Puis les jappements cessèrent. La menue se tut, et succédant au fracas inhumain que nous venions de subir, un silence tomba sur la cave. Si profond, si anormal et si douloureux qu'il me donna envie de crier. On aurait dit que je m'étais appuyé sur le bruit et que le bruit cessant, je me trouvais en suspens dans le vide. Je me sentais en même temps incapable de bouger et le champ de ma vision s'était rétréci. À part la menue et Momo, qui étaient étendus devant moi, je ne voyais personne, et pas même Colin, bien qu'il m'affirma par la suite qu'il n'avait pas bougé de place. Lié, je ne sais comment, au silence, un sentiment d'horreur m'envahit. Je m'aperçus en même temps que je suffoquais et que je ruisselais de sueur. J'ôtai, ou plutôt j'arrachai, le pull-over à col roulé que j'avais enfilé avant de pénétrer dans la cave, mais c'est à peine si je sentis la différence. La transpiration continuait à jaillir de mon front et à couler le long de mes joues, sous mes aisselles et dans mes reins. Je souffrais d'une soif intense, mes lèvres étaient sèches et ma langue collée contre mon palais. Je m'aperçus au bout d'un moment que je gardais la bouche ouverte et que je haletais comme un chien, à petits coups rapides, mais sans arriver à vaincre l'impression d'étouffement que je ressentais. J'éprouvais en même temps une extrême fatigue et, assis par terre, le dos appuyé contre un tonneau, je me sentais incapable de parler ni de bouger. Personne ne disait mot. La cave était maintenant muette comme une tombe. Et à part le halètement des respirations, on n'entendait plus un son. Je distinguais maintenant mes compagnons, mais c'était une image brouillée, liée à un sentiment de faiblesse et de nausée, comme si j'allais m'évanouir. Je fermais les yeux. L'effort pour regarder autour de moi me paraissait épuisant. Je ne pensais à rien, je ne me posais aucune question et pas même celle de savoir pourquoi j'étais en train d'étouffer. J'étais tassée, inerte dans mon coin, comme un animal agonisant. Je haletais, je transpirais et j'éprouvais un sentiment d'angoisse abominable. J'allais mourir, j'en avais l'absolue certitude. Yeah. Bon, vous avez donc... Pardon. Non, mais vous, comme on l'avait... On s'était censuré avant la lecture pour ne pas dire quel était cet événement qui se passait.
Cet événement, c'était tout simplement l'arrivée
tout simplement.
Bombe atomique.
Ouais, enfin,
un cataclysme nucléaire, tout simplement. Nucléaire.
C'est une bombe à neutrons de mémoire. Ouais. Parce qu'une bombe nucléaire... S'il l'explique aussi dans le livre, c'est étonnant, j'ai lu ça il y a très longtemps, il explique que ça doit être une bombe à neutrons. Qui laisse intact, parce que ça laisse intact tout le paysage.
Ah oui, ça, on va le voir ça ne souffle pas le paysage.
Ça ne souffle pas le paysage, ouais. Ça ne brûle pas le paysage.
Non. Et quand donc, il va voir à nouveau regarder le paysage est tout noir parce qu'il a brûlé, mais effectivement, il n'est pas soufflé.
Détruit, oui, oui.
Il n'est pas détruit. Ouais.
Alors moi, je suis admiratif de la façon dont c'est écrit. On s'y croirait vraiment, hein. Mais... Alors, ce qui est rigolo, c'est d'entendre parler de transistors.
Bah, c'est pas rigolo, hein. Nous, on en a eu des transistors, excuse-moi.
Ça va pas dire grand-chose à nos plus jeunes auditeurs. Oh. Mais un transistor, c'est... Oh là là, comment expliquer ?
Bah, c'est une radio, c'est tout.
Poste de radio.
Poste de radio.
Avant les années 70.
Mais tu rigoles, moi j'en ai toujours un.
Avant le MP3.
Dans ma salle de bain, j'ai une petite radio à pile.
Et pourtant, t'es toute jeune.
Et pourtant, je suis toute jeune.
Ouais, on appelle plus ça un transistor. Non. D'ailleurs, il n'y a plus de transistor dedans.
J'ai une radio.
Le transistor.
Oui, c'est ça, c'était le transistor.
Le transistor, vas-y, on était en marche et il y avait un petit temps de latence, le temps que les...
Ah oui, ça chauffe.
Ça passe par les...
Et puis on cherchait avec le bouton.
Oh bah ça, tu peux toujours chercher. Hein. Ouais. Il y a des radios, tu cherches encore. Hein.
Bien, bien. Bon. Donc, ils sont donc compagnons au départ. Hein. Ils sont dans une cave, c'est ce qui va les sauver.
Voilà.
Et donc, toute l'histoire va partir de là, Hervé.
À partir de là. Et tu pourrais me dire que la situation paraît un petit peu pauvrette. Tu pourrais me le dire, parce que c'est l'explosion du bombe sur le conducteur, mais bon...
L'explosion du
bombe... Non. C'est pas pauvre, le débarrage.
Ben, on pourrait croire quelques compagnons dans une cave. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, non. Au contraire, le livre est extrêmement riche. Et d'abord, la première question qui vient, mais au fait, y a-t-il d'autres survivants?
Ils ne sont pas encore sortis de la cave.
Ils première pas chose savoir. Dont ils vont se préoccuper, j'imagine.
Bon, mais on n'en est pas encore là. Hein, on n'en est pas encore là. Disons que ce qui est fabuleux, c'est pour ça que j'ai choisi aussi, c'est parce qu'il arrive en mettant la narration à la première personne à rendre une situation extrêmement réelle. Il arrive à rendre réel quelque chose qui, a priori, pourrait ne pas l'être quand même. Hein, voilà.
Espérons.
Bon, je vous pose la question. Alors, pour survivre, de quoi a-t-on besoin ?
Alors, Catherine ? La première réponse, je dirais de l'eau.
Bah oui, de l'eau et à manger. Non, il faudrait plutôt demander à Robert Merle de nous sortir de cette situation. Hein.
Ou alors Hervé Le Tellier, l'anomalie.
Oui. Hein ?
Eh oui, tout à fait, excellent roman. Enfin bref, vous pourriez me demander à moi.
Oui.
Mais on te le demande.
Vas-y, on te le demande. Alors, de quoi
on
a besoin ?
Parce que j'ai le conducteur sous les yeux et la réponse, c'est que, et vous n'y avez pas pensé.
Non, du tout.
On a besoin d'animaux. Emmanuel, tu as des bêtes qui sont en vie. Il disparut, je me levais béant. Je me demandais si j'avais bien entendu. La menou se leva aussi. Elle me regarda et elle me dit en patois, comme si elle en doutait d'avoir bien compris le français de Thomas. Il a bien dit qu'il y a des bêtes qui sont en vie. Ibé ! J'y vais ! Cria Momo et il se précipita en courant vers la porte de la cave. « Attends, attends, je te dis de m'attendre !» cria la menou en trottinant à sa suite à toute vitesse. Elle avait l'air d'une vieille petite souris, tant ses pattes maigres s'agitaient. J'entendis sonner dans l'escalier les souliers cloutés de Momo. Je me mis à courir, moi aussi, dépassai la menou et rattrapai Momo juste comme il franchissait le pont-levis et pénétrait dans la première enceinte. De Thomas et des trois autres, plus trace. Thomas était venu m'avertir et avait dû rejoindre les autres au pas de course sur le chemin de Maljac. Il y eut à notre approche un mélange de hennissement, de meuglement et de grognement du tout assez faible. Il provenait de la grotte que Birgitta avait appelée la maternité. Je me mis à courir de toutes mes forces, je dépassais Momo et j'arrivais à bout de souffle, ruisselant de sueur, le cœur cognant contre mes côtes. Il y avait là, dans des boxes séparées pratiquées dans le fond de la grotte, Bel Amour, la jument adorée de Momo, âgée de 14 ans et prête à pouliner, princesse, une des vaches hollandaises, et la Menou, dans le même état, et mon amarante trop jeune pour être encore saillie, mais que j'avais mise là parce qu'elle tiquait. Et enfin une énorme truie sur le point de mettre bas et que la Menou, sans ma permission, mais elle s'en passait, avait appelée l'Adélaïde. Les bêtes avaient beaucoup souffert. Elles étaient couchées sur le flanc, elles étaient faibles, elles respiraient avec difficulté, mais enfin elles étaient en vie. La fraîcheur et la profondeur de la grotte les avaient protégées. Je ne pus pas approcher Bel Amour, car déjà Momo s'était jetée à son cou, se vautrant à côté d'elle dans le crottin, en hennissant avec tendresse. Mais Amarante, dont la tête reposait sur le côté dans la paille, la redressa quand j'entrais dans le box, et dirigea ses naseaux vers mes doigts pour les flairer. En arrivant, la Menou ne pensa même pas à gronder Momo de gâter ses habits dans le fumier. Elle était tout occupée à examiner Princesse, à la tâter et à la plaindre. « Eh bé, ma vieille, eh bé, ma vieille !» Puis elle passa à la truie, mais sans trop l'approcher, en raison de sa méchanceté. Je vérifiais les abreuvoirs automatiques, l'eau était chaude, mais il fonctionnait. « Ibéchez, ibéchez !»« Je vais chercher de l'orge !» dit Momo en montant l'échelle le demeunier qui menait à l'étage où j'engrangeais le foin. « Non, non, dit la Menou, pas d'orge, du son, avec de l'eau et du vin, pour tout le monde. Tire-toi donc de là, grand couillon, dit-elle à Momo, que tu as ton pantalon plein de crottes et que tu vas puer plus que l'Adélaïde. » Je quittai Amarante et j'eus le courage de sortir de la maternité et d'aller regarder dans les autres boxes. L'odeur me renseigna avant la vue et je mis mon mouchoir sur le nez tant la puanteur m'asphyxiait. Toutes les bêtes étaient mortes, non pas brûlées, mais étouffées par la chaleur, collées contre la falaise, et protégées par elles, les boxes n'avaient pas flambé. Mais les grandes pierres plates qui les recouvraient avaient dû être portées à une température élevée, car les poutres en dessous, du vieux chêne de récupération aussi dur que du métal, s'étaient, en surface du moins, caramélisées. La Menou revint avec deux bouteilles de vin et les mélangeant à l'eau et au son, elle fit une pâtée qu'elle distribua dans des bassines. J'entrai dans le box d'Amarante, toujours couchée, et prenant une poignée dans ma main, je la lui plaçai sous le nez. Elle la flaira, siffla dessus ses naseaux, et retroussant ses lèvres avec dégoût, elle le mangea du bout des dents sans entrain. Quand elle eut fini, je pris une deuxième poignée et la lui tendis de nouveau. Elle mangeait très peu et avec une lenteur infinie. J'y voyais une sorte d'ironie, parce que le son qu'elle dédaignait, j'avais si faim qu'il me faisait presque envie. De l'oreille, je suivais les insultes et les tendresses que Momo déversait à côté sur Bel Amour pour l'amener à se nourrir. Sur un ton mineur, les encouragements que la Menou prodiguait à Princesse, la Menou s'était contentée de pousser la bassine sous le nez de la truie. Et à en juger par les bruits qu'elle émettait, la truie était la seule aussi à faire honneur à son repas. « Ça marche, Menou ? » dis-je en haussant la voix. « Pas bien. Et toi ? Pas bien non plus. Et toi, Momo ? Allez, monne ! » !»« Elle est conne !» dit Momo avec colère. « C'est qu'on ne peut pas leur expliquer, » reprit la Menou. « Le parler et la jugeote, c'est quand même bien utile. Tu me prends Princesse, elle a faim, mais tellement faible qu'elle sait même pas qu'elle a faim. » Assis sur mes talons et presque ankylosé, j'en étais toujours à attendre qu'Amarante eût fini de grappiller sa deuxième poignée. En même temps, je me surprenais, moi aussi, à l'insulter avec tendresse. Je m'en rendais bien compte. Ces bêtes, c'était la condition de notre survie. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Bien. Eh bien, Robert Merle nous tient en haleine.
Aucun doute.
Dans cette reconstruction.
En effet, c'est un. Enfin, Robert Merle est quand même. Là, on parle de Malville, mais c'est un formidable auteur. Il a une précision remarquable dans ses descriptions des situations, les dialogues, les personnages. Et pourtant, on est quoi à la première partie du roman, hein, c'est un roman.
Oui, on
roman,
est au début.
Voilà.
On n'en est qu'au début du roman à ce moment-là.
Enfin, début, oui.
Alors, je précise quand même que Robert Merle ne s'intéresse pas au reste de l'humanité. Hein. L'action se passe vraisemblablement dans le Périgord, où il vivait,
oui. Hein,
Périgord noir même. Bon, mais
oui, puis les noms, ça fait penser un peu au Périgord.
Un petit peu ça, oui.
La Roque.
Mal et Jacques.
Alors, je précise que La Roque, j'ai vérifié.
C'est pas La Roque Gajac.
Alors, ça, La Roque même, ça n'existe pas. Il y a bien effectivement un La Roque Gajac, mais qui ne ressemble pas au petit village de La Roque qu'il décrit. Voilà. Et surtout qu'on était dans les années 70 et que le tourisme de masse n'était pas encore arrivé.
Oui, enfin, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Ils seraient morts, les touristes.
Par contre, on pourrait, même s'ils ne s'intéressent pas au reste de l'humanité, on pourrait se demander quand même, et ça va arriver, s'il y a
d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres survivants ?
Eh oui.
Exactement.
Eh oui.
Et dans quel état ? Et justement, à propos de ça, eh bien, la scène qui va suivre est édifiante.
Quand je débouche dans les runes, je vois assez loin de moi et me tournant le dos, immobile, l'arme à la main sur une ligne, Pessou, Colin, Messonnier, Jacquet. Ils sont absolument sans mouvement. Ils ne disent rien. Ils ont l'air pétrifiés. Ce qui les pétrifie, je ne sais, car je ne le vois que leur dos. En tout cas, ils n'ont pas l'attitude de gens qu'on menace ou qui doivent se défendre ou qui ont peur. Ils sont muets, changés en statue, et même le bruit de ma course ne les fait pas se retourner. J'arrive enfin sur eux sans qu'ils sortent de leur stupeur, sans qu'ils me fassent place, et à mon tour je vois. À une dizaine de mètres de nous, en contrebas, une vingtaine d'individus en loques, rendus au dernier degré de la cachexie, non pas pâles, mais véritablement jaunâtres, la peau du visage pendant sur les os, certains même si faibles qu'ils n'ont pas la force d'accommoder et louches à faire peur. Ils sont accroupis ou couchés sur notre blé et dévorent avec des petits jappements craintifs les épis à demi mûrs. Ils ne prennent même pas le temps de séparer le grain de son enveloppe. Ils mangent tout. Je remarque que le pourtour de leur bouche est vert, preuve qu'avant de rencontrer notre blé, ils ont essayé de brouter de l'herbe. On dirait des bêtes squelettiques. Leurs yeux louches luisent de peur et d'avidité. Et ils nous jettent des regards de côté en se dépêchant d'enfourner les épis dans leur gueule. Quand ils étouffent, ils recrachent leur nourriture dans le creux de leurs mains puis la ravalent aussitôt. Il y a parmi eux des femmes. On les différencie par la longueur de leurs cheveux car leur maigreur effrayante leur a ôté tout caractère sexuel apparent. Aucun d'eux n'a de fusil, mais je vois à côté d'eux couchés sur les tiges de blé des fourches et des gourdins. Le spectacle est si pitoyable qu'il me faut un moment pour me rendre compte qu'ils ont déjà gâché un quart de notre récolte et qu'ils vont la gâter tout entière si nous n'intervenons pas. Ce n'est pas seulement ce qu'ils mangent. Ils perdent beaucoup plus d'épis en piétinant et en se couchant sur les tiges. Et ces grains qu'ils saccagent ou dévorent, c'est notre vie. Et si on peut impunément détruire le blé de Malville, alors Malville sera réduit lui aussi à l'état de bande famélique errante comme tant d'autres. Car celle-ci n'est que la première que nous voyons, j'en suis certain. C'est le renouveau de la végétation qu'il a jeté sur les chemins en quête de nourriture. Pessou est à côté de moi, il n'a pas l'air conscient de ma présence, mais la sueur coule sur son visage. « On a tout essayé, » dit Colin, la voix étouffée par la douleur et la colère. « On leur a parlé, on les a engueulés, on a tiré en l'air, on leur a jeté des pierres. »« Penses-tu, les pierres, ils s'en foutent. Ils se protègent la tête d'un bras et ils continuent à bouffer. »« Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?» dit Messonnier avec une stupeur qu'à un autre moment je trouverais comique. « Et d'où ils viennent ?» Il leur crie en patois avec une rage impuissante. « Foutez le camp, nom de Dieu, voyez bien que vous gâtez notre blé. Et nous alors, qu'est-ce qu'on mangera ?»« Ah ouais, » dit Colin, « patois ou français, ils répondent même pas, ils bouffent. » Et dire qu'on se faisait du mauvais sang pour un blaireau. « Et si on leur rentrait dedans à coups de crosse ?» dit enfin Pessou d'une voix étranglée. Je fais non de la tête. Il ne faut pas se fier à leur faiblesse. On peut tout attendre d'un être traqué. Et crosse de fusil contre fourche, le combat ne serait pas égal. Non, le seul parti logique que je dois prendre, je le connais. Mes compagnons aussi. Et j'en suis incapable. Là, sur la lisière de ce champ de blé, l'arme à la main, le cran de sûreté enlevé, une balle engagée dans le canon et le doigt sur la détente, c'est peu de dire que j'hésite. Je suis frappée par une inhibition totale qui, contre mon jugement clair, me paralyse. Moi aussi, je suis pétrifiée. Le seul à s'agiter, c'est Momo. Je le sais très excitable, mais en proie à un tel délire, je ne l'ai jamais vu. Il trépigne, lève les bras au ciel, brandit le poing et hurle. Il est possédé par une colère démente et tournant vers moi ses yeux brillants et sa tête hirsute, de la voix et du geste, il m'adjure de mettre un terme au pillage. Il crie d'une voix stridente « Le bé ! Le bé !» Les pillards ont dû se battre entre eux ou se battre contre une autre bande, car leurs vêtements sont en loques. Et ces loques sales, souillées, couleur de terre, découvrent leurs cuisses, leurs torses, leurs dos. Je vois une malheureuse dont les seins flasques et plissés pendent jusqu'au sol, tandis qu'elle se traîne à quatre pattes d'épi en épi. Celle-là a des souliers, mais la plupart ont les pieds enveloppés de chiffons. Il n'y a pas parmi eux d'enfants, ni d'individus très jeunes, ni de vieillards. Les moins résistants sont morts. Ce que je vois dans la force de l'âge, expression qui paraît cruelle appliquée à ces squelettes, je suis frappée par la saillie des os du bassin, par les genoux qui paraissent énormes, par les omoplates, par les clavicules. Quand ils mastiquent, on voit les muscles de leurs mâchoires. Leur peau est un sac plus ou moins plissé qui enveloppe les os. Et il émane de leur groupe une odeur rance qui vous prend à la gorge et vous écœure. Le bé ! Le bé ! Crie Momo, et de ses deux mains il se saisit les cheveux comme pour les arracher. J'ai la main droite crispée sur mon arme, mais elle est toujours le long de ma hanche, le canon dirigé à terre. Je n'arrive pas à épauler. Pour ces étrangers, pour ces pillards, j'éprouve une haine folle parce qu'ils dévorent notre vie, et aussi parce qu'ils sont ce que nous pourrions si vite devenir, nous, à Malville, si le pillage de nos ressources continuait. Mais j'éprouve en même temps une pitié abjecte qui équilibre ma haine et me réduit à l'impuissance. Le bé ! Le bé ! Hurle Momo au paroxysme de l'excitation. Et tout d'un coup, il franchit en courant les 10 mètres qui nous séparent de la bande et il se jette en hurlant sur le pillard le plus proche et le martèle de ses poings et de ses bottes. Momo ! Momo ! Crie la menou. Quelqu'un arrive. Peut-être Pessou. Moi aussi j'ai envie de rire par affection pour Momo parce qu'un acte pareil, si enfantin, si dérisoire, ça lui ressemble tant. Et aussi parce que rien de ce que fait Momo ne tire à conséquence. Parce que Momo est une parenthèse dans le sérieux de la vie. Parce que Momo compte pour du beurre. Parce que je n'imagine pas que rien puisse jamais arriver à Momo. Il a toujours été si protégé par la menou, par l'oncle, par moi, par les compagnons. J'ai vu une demi-seconde trop tard le regard farouche de l'homme. J'ai vu un quart de seconde trop tard le coup de fourche. J'ai cru le prévenir en tirant. Il était déjà porté. Et les 3 dents de la fourche s'enfonçaient dans le cœur de Momo quand ma balle a frappé son adversaire et lui a déchiqueté la gorge. Ils tombent en même temps. J'entends un hurlement inhumain et je vois la menou se ruer en avant et se jeter sur le cadavre de son fils. J'avance alors comme un automate et je tire en avançant, à ma droite, à ma gauche, avançant sur une ligne, mes compagnons tirent aussi, nous tirons dans le tas, sans viser, mon esprit est un blanc total, je pense Momo est mort, je ne ressens rien, j'avance et je tire. Il n'est pas nécessaire d'avancer, nous sommes déjà si près, et pourtant nous avançons mécaniquement, méthodiquement, comme si nous fauchions un champ. Plus rien ne bouge. Et pourtant, nous tirons toujours, jusqu'à épuisement des cartouches.
Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going.
You are my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. Sweetest melody I've never sung. Your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are my You are the breeze, the song that carries me. You are the sweetest melody I've ever sung.
Eh ben dis donc, elle n'est pas gay la première rencontre avec des humains.
Non, pas du tout. Mais en fait, en réalité, ça n'est pas la première rencontre. Il y en a eu d'autres avant, et notamment avec, avec une ferme. Mais résumer, enfin, expliquer tout un roman qui est assez gros, hein, plus de 600 pages en une émission d'une heure, bon, on est obligé de faire des choix. Et donc, j'avais choisi une autre rencontre parce qu'elle m'a semblé, on va le dire, plus dramatique. Mmh. Hein, tout à fait.
Et donc, toujours aussi bien analysé.
Et toujours aussi bien analysé. Et oui, donc du coup, les hommes qui restent, on se demande s'ils resteront civilisés.
Tout à fait, oui.
Et comme sur le Titanic avant de sombrer, j'imagine qu'on va trouver le meilleur et le pire.
C'est incroyable parce que ce livre a été écrit dans les années 70 et pourtant on trouve qu'il aborde des sujets qui sont incroyablement modernes.
Moderne. Ben, ça me fait penser à La route de McCormack. Je sais pas à vous, moi j'ai pensé à ça. Alors c'est vrai que je viens de le relire en roman graphique, là où BD il vient de sortir. C'est.
Oui, il est très fort en ce roman. Oui, c'est l'horreur absolue.
Et le dessin qui est superbe en rajoute une couche. Je vous le conseille.
Oui, j'ai pas lu.
Même si on ne lira pas ce roman graphique à la radio.
À la radio, non, ça a été difficile le mois dernier.
Mais ça vaut le coup de le lire. Enfin, c'est une parenthèse, mais c'est tous ces romans à post-apocalyptiques. Quoi. Il y en a quand même eu beaucoup dans ces périodes-là.
Oui, et qui nous font aborder, dans le cadre d'une émission littéraire, plein de... Et c'est ça qui est bien, les livres, ça amène ça, hein, quand même. Ça amène à aborder des vrais sujets de société. Et par exemple, là... dans Malville, il parle beaucoup de la religion. Et j'ai l'impression, je me tourne vers Catherine, peut-être tu sembles mieux le connaître encore, que Robert Merle aborde souvent les sujets de religion dans ses livres.
Là, c'est facile de répondre, il suffit de Fortune de France. Le thème majeur, c'est évidemment la guerre entre les catholiques et les protestants en France. C'est-à-dire une guerre fratricide.
Et c'est un peu curieux de voir ce thème de la religion revenir dans Malville.
Non, pas si curieux, parce que nous, en France, on est un pays laïque, mais regarde l'importance des religions dans les autres pays, même d'Europe, simplement d'Europe.
Mmh. Et oui, et dans les populations un peu démunies, comme ils peuvent l'être dans le livre. Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres thèmes comme ça qui sont abordés dans le livre ?
L'importance des chefs.
Oui. Quelle est la bonne solution en cas de difficulté ? La démocratie où tout le monde discute au risque de ralentir les décisions ou une dictature ? Je trouve que ma formulation est tendancieuse. Je le dis franchement.
Changeons de sujet. La place des femmes. La place des femmes.
Oui. Ouais. Même si d'autres femmes se greffent au groupe d'Emmanuel, c'est vrai qu'elles sont vraiment minoritaires.
Oui, je reviens au thème du chef quand même. C'est important dans le livre hein, parce que le chef, c'est celui qui guide la communauté, c'est celui qui doit prendre les bonnes décisions. Et comme ils ne sont pas très nombreux, il a quand même c'est lui qui a la responsabilité du devenir du groupe.
Là, dans la conversation, on a passé assez vite, mais c'est vrai qu'il y a un vrai choix qui se fait dans Malville entre le chef autocratique, décideur, autoritaire et une démocratie où il faudrait donner la parole à tout le monde.
Ah oui.
Ouh là là.
Sur le thème des femmes.
Ouh là là.
Eh bien, là, c'est un peu le contraire du roman dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'il y a, c'était lequel déjà, où les hommes sont enfermés.
Les hommes protégés.
Les hommes protégés, voilà. C'est ça. Où effectivement la maladie.
Plus d'hommes, voilà.
On le disait hors antenne, la maladie tue les hommes, il n'y a plus d'hommes. Alors que là, c'est le contraire. Il n'y a presque pas de femmes. D'où, du coup.
Enfin, dans leur groupe, sur Terre.
Dans leur groupe, oui, bien sûr.
Sur Terre, on ne sait pas. Ah, oui. Mais dans leur groupe, oui.
Mais du coup, se pose le problème de la polygamie.
Ça fait. Oui, ça fait beaucoup de thèmes. beaucoup de thèmes dans un seul livre.
Tout à fait. Ouais. Bon, bah alors, il faut aller vers le dernier extrait d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et du coup, je ne pouvais pas ne pas choisir un extrait avec l'abbé Fulbert. En effet, il y a un personnage, l'abbé Fulbert.
C'est le méchant.
c'est le méchant pour résumer, qui va apparaître à peu près à la moitié du roman, on peut le dire, et qui va prendre énormément d'importance et qui va rendre la fin du roman absolument, palpitante. Voilà. Assète est malade. Au cours de son premier repas à notre table, Fulbert prétendit à la fois être les deux. Il nous confia dans un premier temps qu'il avait toujours vécu de peu et qu'il n'avait pas de besoin et qu'il s'était bien accommodé de la pauvreté. Quelques instants plus tard, il alla plus loin dans la confidence. Il était miné par un mal sans espoir. Mais heureusement non contagieux. Je suppose que c'est pour nous rassurer. Il avait déjà, dit-il, avec simplicité, un pied dans la tombe. Cependant, il mangeait comme quatre et discourait sans arrêt de sa belle voix de baryton, toute vibrante de vitalité. De temps à autre aussi, entre deux bouchées, il glissait quelques petits regards à sa voisine de gauche et son intérêt parut redoubler quand il apprit qu'elle était muette. Et moi, je commençais à me poser sur Fulbert quelques petites questions. D'après ce qu'il disait de sa vie avant le jour de l'événement, et en apparence au moins il se confiait beaucoup, bien que toujours avec un certain vague, il avait parcouru tout le centre et tout le sud-ouest de la France, résidant tantôt chez monsieur le curé un tel, tantôt chez madame une telle, tantôt chez les bons pères à Z et toujours en invité. Quand le jour J l'avait surpris, il vivait depuis 8 jours chez le bon curé de Larocque, qui sous ses yeux avait rendu son âme à Dieu. Il n'avait donc pas de cure, notre ami Fulbert, ni de chez soi. Et de quoi vivait-il ? Il n'était question dans ses dires que de dames charitables qui subvenaient à ses besoins qu'il n'avait pas, et lui faisaient 1000 présents en se disputant sa compagnie. Là, me sembla-t-il, le beau Fulbert ne parlait pas sans coquetterie et paraissait conscient de ses charmes. Il était habillé d'un costume anthracite assez usé, mais dès qu'il l'eut dépoussiéré, fort propre, d'une chemise dont le col nullement ecclésiastique montrait en effet la trame et d'une cravate en tricot gris foncé. Et surtout, pendant en sautoir au bout d'un cordon noir, il arborait une superbe croix pectorale en argent qu'à mon avis aucun prêtre, à moins d'être évêque, ne se fût permis de porter. Situé originaire de Cahors, dis-je, j'avais pris le parti, malgré sa majesté, de continuer à le tutoyer. Tu as dû faire des études au grand séminaire. Mais oui, dit Fulbert, ses lourdes paupières voilant ses yeux louches. Et en quelle année y es-tu entré ? Ah, tu me demandes là des choses, dit Fulbert, les yeux toujours baissés avec un petit rire bon enfant. Il y a si longtemps de cela, c'est que je ne suis plus un jeune homme, ajouta-t-il avec coquetterie. Voyons, dis-je, fais un effort pour te souvenir, quand même, l'année où il entre au grand séminaire pour un prêtre, ça doit compter. En effet, dit Fulbert de sa belle voix grave, c'est une date. Et comme je me taisais, poussé à bout dans ses retranchements par mon silence, il reprit « Voyons, ça doit être en 56. »« Oui, confirma-t-il, après un nouvel effort mental. En 56. »« Ah, c'est bien ce que je pensais, » dis-je aussitôt d'un air de bonheur. « Tu es entré au grand séminaire de Cahors en même temps que mon ami serrurier. »« C'est que nous étions nombreux au grand séminaire, dit Fulbert avec un petit sourire. Je ne connaissais pas tout le monde, mais pas en première année, repris-je. Et puis un type comme serrurier, ça ne passe pas inaperçu. 1,94 m et doux comme du feu, et roux comme du feu. Ah oui, bien sûr, maintenant que tu le décris, dit Fulbert. Il avait parlé avec réticence et parut très soulagé quand je lui demandais de nous parler de la roque. Après la bombe, dit-il avec tristesse, nous avons dû faire face à une situation très douloureuse. Je notais au passage ce mot « douloureux ». Je ne l'ai jamais entendu que dans la bouche des prêtres ou de ceux qui les singent. Chez eux, c'est presque un terme de métier. Fulbert, lui, s'en délectait de sa situation très douloureuse. Elle avait consisté pour les survivants à enterrer ce qui restait des morts. Nous aussi, nous avions connu cela et nous n'en parlions jamais. Comme il ne nous épargnait aucun détail, je lui demandais, pour changer de sujet, comment les gens vivaient à la roque. « Bien et mal, » dit-il en hochant la tête et en promenant ses beaux yeux mélancoliques autour de la table. « Bien au point de vue spirituel, assez mal au point de vue matériel. » « Du point de vue spirituel, » reprit-il en fermant à demi les yeux et en mettant dans sa bouche un gros morceau de jambon, « je dois dire que j'ai des grandes satisfactions. L'assiduité aux offices est remarquable. » Notant chez Messonnier et moi un certain étonnement, car à l'Europe ils avaient une mairie communiste, il reprit « Je vais peut-être vous surprendre, mais à la Roque, tout le monde assiste à la messe et tout le monde communie. » « Et à quoi attribues-tu ça ? » dit Messonnier d'une voix contrariée en fronçant les sourcils. Comme il était assis à ma gauche, je tournai la tête pour le regarder. Je fus frappé par la sévérité de son long profil. De toute évidence, il était bouleversé par ce qu'il venait d'apprendre. Bien que le jour de l'événement eût réduit à néant ses espoirs, Messonnier pensait encore le monde en termes de mairie à conquérir par l'union des forces de gauche. Je lui donnai sous la table un petit coup de pied. Il y a un moment pour être franc et un moment pour l'être moins. Ma méfiance à l'égard de Fulbert grandissait de minute en minute. Je ne doutais pas de son emprise sur les survivants de la roque et je la trouvais inquiétante. « Après la bombe, » dit Fulbert de sa belle voix grave qui paraissait jouir d'elle-même, « les gens sont rentrés en eux-mêmes et ont fait leur examen de conscience. Leurs souffrances physiques et surtout leurs souffrances morales ont été telles qu'ils se sont demandé si une malédiction ne pesait pas sur eux du fait de leurs erreurs, de leurs péchés, de leur indifférence envers Dieu, de l'oubli de tous leurs devoirs, et en particulier de leurs devoirs religieux. Et puis, il faut bien dire que notre existence à tous est devenue si précaire que notre instinct est de nous tourner vers le Seigneur pour lui demander protection. Après le repas, les convives assis en cercle autour du feu, Fulbert revint de lui-même sur les difficultés matérielles de la roque. Au début, les Larroquais avaient envisagé l'avenir avec optimisme parce que la grande épicerie et la charcuterie qui jouxtaient la petite boutique de Colin avaient échappé à l'incendie qui, le jour de l'événement, avait ravagé la ville basse. Mais on s'était aperçu que ces réserves s'épuiseraient un jour et que Larroque ne pourrait pas les renouveler car toutes les fermes autour du bourg avaient été détruites avec leur cheptel. Cette perte est d'autant plus malheureuse qu'il y avait à Larroque deux bébés et une orpheline d'une douzaine d'années, mais dont la santé demandait des soins. Jusqu'ici, pour les nourrir, on avait puisé dans le lait condensé de l'épicerie, mais ses fonds touchaient maintenant à sa fin. Je remarquai que Fulbert, si volontiers éloquent, répondait avec brièveté à mes questions. J'en conclus que sa description des conditions matérielles de Larroque comportait une conclusion, mais que, malgré son considérable aplomb, il n'avait pas osé ou réussi encore à la formuler. Je me tus les yeux fixés sur le feu. Fulbert eut au bout d'un moment une petite toux qui trahissait non pas son embarras, mais le fait qu'ayant déjà un pied dans l'au-delà, il éprouvait un certain mal à revenir dans ce monde-ci pour s'occuper des affaires des hommes. « Je dois dire, reprit-il, que je suis très préoccupé par le sort de ces deux bébés de notre pauvre petite orpheline. Il y a là une situation très douloureuse et dont je ne vois pas l'issue. » Sans lait, je ne vois pas comment nous allons réussir à les élever. » De nouveau, il laissa peser un silence. Tous les regards étaient fixés sur lui et personne n'avait envie de parler. « Je sais bien, reprit Fulbert de sa voix profonde, que ce que je vais vous demander va vous paraître énorme. Mais enfin, les circonstances sont exceptionnelles. Les dons de Dieu inégalement répartis, et pour vivre, pour survivre même, nous allons devoir nous rappeler que nous sommes frères et que nous devons nous entraider. » Je l'écoutais, considérais en soi tout ce qu'il disait était vrai, mais dit par lui, tout sonnait faux. J'avais l'impression que cet homme qui jouait sur les sentiments humains ne les éprouvait pas. « C'est au nom, reprit-il, de nos pauvres bébés de Larroque que je vous fais cette demande. J'ai remarqué que vous aviez plusieurs vaches. Nous vous serions très profondément reconnaissants si vous pouviez nous en céder une. »
Thing he's found. If she is.
Bon, bah, c'est savoureux cette rencontre avec l'abbé Fulbert qui est dans le livre, c'est le méchant en fait. Hein. Ils
oui, vont quand, ouvert quand tu après, dis hein. savoureux, on a plutôt envie de lui sauter à la gorge. Et ça aborde mine de rien un sujet, alors à l'envers avec lui, mais c'est l'entraide nécessaire entre les peuples en cas de difficulté. Enfin, quand je dis entre les peuples, que ça soit dans les familles, dans un village ou au niveau de la terre,
les relations
si
avec les voisins.
Si on
ne
s'entraide pas, on crève quoi.
Avec les pays voisins qui crèvent de faim, par exemple.
Tu penses aux problèmes migratoires.
Non, mais même. Oui, mais je veux dire. Oui, c'est simple, c'est-à-dire que soit tu aides l'autre, soit tu le tues, quoi, à peu près. Et on a eu le résumé dans les extraits qu'on a choisis.
Hein. Excusez-moi de rigoler.
En fait, dans tous ces bouquins post-apocalyptiques, il y a toutes les questions politiques aujourd'hui. En général. Je veux dire, qui décide qui décide de quoi? Est-ce qu'on aide le voisin ou pas?
Étonnant comme un roman écrit dans les années 70 reste d'actualité.
Mais oui, parce que c'est vrai que la situation qu'on vit aujourd'hui avec les questions de réchauffement climatique, c'est-à-dire d'annonce de la fin de notre monde, même si le monde continuera sans nous et ce n'est pas un problème pour lui, eh bien, là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On profite un max en essayant d'éliminer les autres, parce que moins on est, mieux on a, ou est-ce qu'on essaie de s'entraider?
Ça mériterait plusieurs émissions.
Je crois.
Problème éternel.
Eh oui.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce choix, Hervé. Merci beaucoup pour cette lecture, tous les deux.
Alors, titre. Oui. Alors, c'est Malville, hein, M-A-L-E-V-I-L, parce qu'on peut se demander comment ça s'écrit. Oui. Publié donc, ça a été publié aux éditions Gallimard en 72. Oh, bon, aujourd'hui, l'édition originale est un peu plus compliquée à trouver, mais on le trouve facilement encore en poche.
On trouve encore en poche.
En folio, oui.
On trouve encore.
Et puis,
en poche.
On le trouve.
Et je précise, oui, tout à fait. Oui, on peut le trouver d'occasion, puisque moi, j'ai acheté mon exemplaire au Bibliovore, place Ave Maria à Blois.
Coup de pub,
voilà.
Et très bonne pub, parce qu'on parle souvent des libraires, on dit d'aller acheter chez libraire, mais c'est un libraire, mais qui est capable de nous retrouver des bouquins qui ne sont plus édités, par exemple.
Quand lui demande, il cherche.
Alors, libraire, mais on peut aussi trouver Malville dans les bibliothèques.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je ne vous pose pas la question de savoir ce qu'on va lire le mois prochain.
C'est bête parce que je t'aurais répondu. Mais je ne dis rien, tant pis pour toi.
Dommage. Eh bien, bonsoir à tous les deux.
Allez, au revoir.
Bonsoir à nos auditeurs. Et au mois prochain. À bientôt.